Le journal Yves Decamp.
Bonjour. Le 25e jour de grève sur les réseaux SNCF et RATP, un TGV sur 2, 3 TER sur 10, avec ce lundi, selon la direction des métros parisiens, une amélioration significative, mais tout est relatif. Nous verrons que la bataille se joue aussi dans la communication. En attendant, beaucoup cherchent un plan B pour les retours de vacances ou de réveillon. Et puis en attendant que les négociations reprennent le 7 janvier, on attend ce que dira demain soir, à l'occasion de ses vœux, le chef de l'État, dont beaucoup espèrent, dans la majorité, un signal d'apaisement. Dans ce journal également, retour sur le malaise des personnels soignants. On le savait, une enquête Odoxa le confirme. Pour la quasi-totalité d'entre eux, l'hôpital va mal et ça ne devrait pas s'arranger. On en parle avec notre invité, porte-parole d'un syndicat national des professionnels infirmiers. Dans l'actualité de cette fin d'année, il y a aussi le prélèvement à la source qui entre en vigueur avec un an de retard pour les salariés à domicile. Et puis un nouveau décret sur les pesticides, à peine paru au journal officiel, est déjà contesté par les associations.
Une nouvelle fois, le gouvernement n'a pas voulu vraiment protéger les riverains. Donc on va à nouveau saisir le Conseil d'État pour faire casser cet arrêté.
Le délégué général d'Agir pour l'environnement, nous l'entendrons. Et puis à propos d'environnement, bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Dans la Terre au Carré, juste après ce journal, un bilan de l'année.
Un bilan écologique évidemment de l'année 2019 et même de la décennie qui se termine. Quels sont les signaux d'espoir? Nous recevons le chercheur François Gemène. Toutes vos questions au 01 45 24 7000, le standard est d'ores et déjà ouvert.
A tout à l'heure, 13h30. À l'étranger, l'Irak, qui devient une terre d'affrontement par procuration entre les États-Unis et l'Iran. Une frappe américaine a tué quelques 25 combattants du Hezbollah. En Chine, un chercheur condamné à 3 ans de prison. Il avait fait scandale il y a un an en mettant au monde les premiers bébés OGM de l'histoire. Et puis en sport, l'incroyable année 2019 des Reds de Liverpool, quasiment invaincus dans le championnat anglais depuis un an. Il leur reste un match à gagner jeudi soir. Et ils s'approcheront du record d'Arsenal, c'était en 2004.
France Inter.
En attendant Macron, au 25e jour du conflit sur les retraites, un conflit passablement enlisé, on attend maintenant la parole présidentielle demain soir à l'occasion des vœux. Chacun espère une initiative ou un signal du président de la République, on va y revenir. En attendant, rien de changé sous le soleil, un soleil froid et sec de ce 30 décembre, même si le trafic est un peu moins perturbé que les jours précédents, ce qui ne préjuge en rien de la suite. Un TGV sur deux en moyenne et un peu plus de métro en région parisienne où 14 lignes fonctionnent à peu près normalement ou très partiellement, c'est selon. Amélioration significative selon la direction de la RATP qui prévoit d'ailleurs un scénario identique pour demain mardi, mais reste à s'entendre sur ce que veut dire précisément cette amélioration significative. Fabien Cazot, la bagarre de tranchées s'accompagne d'une bataille des mots.
Oui, tout dépend de ce que l'on regarde. C'est vrai qu'il y a moins de lignes de métro totalement fermées qu'au début de la grève ou même par rapport à hier dimanche où il n'y avait quasiment que les deux lignes automatisées, une et 14 qui fonctionnent. La direction de la RATP le reconnaît. D'ailleurs, ce midi, il reste encore beaucoup de perturbations. Des lignes exploitées uniquement en heure de pointe. Et encore, souligne Philippe Martin, directeur général en charge de l'exploitation et de la maintenance du réseau, à condition que ces stations n'abritent pas des correspondances.
S'il y a une ou plusieurs lignes qui ne sont pas exploitées, en général, la station n'est pas ouverte. Donc on ouvre les stations avoisinantes, ce qui fait que sur certaines lignes, il y a 4 ou 5 stations parfois qui vont être fermées pour concentrer nos agents de sécurité, nos agents de station dans les autres stations qui sont exploitées. Tout ça est indiqué sur notre site et sur les applis et sur les écrans dans les gares.
Sur les RER A et B, il y a du mieux depuis vendredi avec des trains qui circulent partiellement mais en continu de 6h30 à 19h, 75% de bus et trafic quasi normal sur les lignes de tramway. Attention pour demain 31 décembre où les métros circulent traditionnellement toute la nuit de la Saint-Sylvestre. Seules les lignes 1 et 14 circuleront jusqu'à 1h45 du matin. Les bus noctiliens seront renforcés.
Voilà, du côté de la SNCF, outre le trafic TGV réduit de moitié, les transiliens, trains de banlieue parisienne, sont réduits à la portion congrue, 1 sur 4 en moyenne, comme en région le trafic des TER, 3 sur 10 en moyenne, est souvent remplacé par un autocar. Situation qui ne devrait guère évoluer les prochains jours, en conséquence de quoi chacun prend ses précautions pour les retours de vacances ou de week-ends prolongés. Exemple, en Charente, où ceux qui sont allés passer les fêtes cherchent aujourd'hui un plan B pour rentrer. Sonia Gobry.
Quentin et sa
sœur sont venus passer Noël à La Rochelle en bus, puisque leur train a été supprimé à deux reprises.
On est arrivé à La Rochelle en se disant qu'on verrait bien sur le moment pour repartir. Il y a eu un petit excès de confiance là-dessus. On pensait pouvoir retrouver un covoit facilement, ou un car, ou n'importe quoi d'autre pour repartir, même peut-être un train.
Résultat, aucun TGV pour Paris. Il reste quelques places dans des bus, mais à plus de 100 euros, donc dernière option pour eux. Et pour les covoiturages, c'est compliqué aussi.
Souvent, ça ne part pas tout à fait de La Rochelle, donc à 10-20 km, et ça n'arrive pas tout à fait à Paris. Donc, je vais vous montrer. On part de l'île d'Elle, on arrive, alors pour le coup à Paris, mais ça fait partir de l'île d'Elle. Alors là, on part de La Rochelle, parfait, mais on arrive à Poissy. Sachant qu'on arrive à Paris, il y a les galères de grève avec les métros et tout, donc c'est super galère.
La galère aussi pour Jean, il a prévu un voyage en Martinique dans 10 jours, alors il fait le tour des agences de location de voitures à la gare de La Rochelle.
J'ai commencé par Europcar, là je vais voir Hertz.
Le voilà avec plusieurs devis entre les mains.
C'est 250 euros pour monter à Paris, quoi. Et après, il y a le carburant, plus il faut rajouter encore le péage, etc. Ça fait quand même une grosse somme, quoi.
Mais il y a quand même preneur, à tel point que les agences de location Hertz et Avia près de la gare de La Rochelle ont du mal à rapatrier leur flotte, bloquée en majorité en région parisienne.
Voilà, des agences dont le chiffre d'affaires, a priori, n'a pas été affecté par les grèves. Attention, cela dit, si on prend la voiture, près de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France dans la nuit de mardi à mercredi pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Annonce faite à l'instant par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le dispositif sera d'ailleurs renforcé par la présence de militaires et de pompiers. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, c'est l'une des plus meurtrières sur les routes. En moyenne, 15 à 20 décès ont été comptabilisés ces dernières années, contre une quarantaine au début des années 2000. Selon le ministre de l'Intérieur, en revanche, il n'y a pas de menace particulière en matière terroriste actuellement, même s'il existe, dit-il, un haut niveau de risque permanent. On l'a vu, donc, les agences de location de voitures n'ont pas de problème, contrairement à beaucoup d'autres commerces ou services pressés que ce conflit se termine, comme le sont aussi les usagers des transports en région parisienne, principalement. Pour beaucoup, il est urgent que la situation se débloque, sans attendre la reprise des négociations, prévue le 7 janvier, plus d'une semaine encore. C'est pourquoi les vœux du président de la République demain soir sont particulièrement attendus, presque plus encore que l'année dernière, en pleine crise des Gilets jaunes. Certains dans la majorité veulent espérer, sans renier la réforme dans son principe, qu'il enverra au minimum un signal d'apaisement. C'est le cas du député de La République En Marche, Jean-François Cesarini. Il est au téléphone de Céline Asselot.
Oui, il est important que le président de la République donne un signal et un principe assez fort, notamment, je pense, sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre. On sait que ça a beaucoup cristallisé de désaccord avec les syndicats réformistes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'au moins, bien sûr, il va pas rentrer, j'allais dire, dans le programmatique, dans les détails. C'est pas le lieu. C'est un discours, effectivement, des vœux. C'est un discours, qui est pas dédié aux retraites. Mais en tout cas, dans ce discours-là, je pense que, dire qu'on peut moduler cet âge d'équilibre, cet âge pivot, suivant la pénibilité, serait au moins un chemin. Alors, ça sera, j'espère, suffisant pour les syndicats réformistes qui l'attendent, et on sait à quel point Laurent Berger a été heurté par cet âge pivot uniforme à 64 ans. Après, on sait évidemment que pour la CGT ou pour FO, qui aujourd'hui sont dans le blocage, quoi que dise le président, ça ne changera rien, et je pense qu'ils n'attendent d'ailleurs rien de ce discours-là.
Alors, que peut dire le président de la République en plein conflit social? Un lointain prédécesseur dans une situation identique avait résolu le problème en cédant avant Noël aux grévistes. C'était en 95. Jacques Chirac, après 3 semaines de grève des cheminots, avait abandonné la réforme des régimes spéciaux portée par son premier ministre Alain Juppé. Il pouvait donc, 15 jours plus tard, présenter des vœux apaisés aux Français. C'est l'archive de ce lundi 13h.
Mes chers compatriotes, il n'est pas facile de réformer, je le sais. La crise que nous venons de traverser l'a rappelé. Au-delà de la défense d'intérêts particuliers, elle a mis en lumière des inquiétudes, des angoisses face au chômage, face à des réformes trop longtemps différées, face à un avenir incertain. Elle a révélé un manque de confiance dans des pouvoirs qui sont parfois ressentis comme éloignés des réalités quotidiennes et qui n'auraient d'autre réponse aux problèmes de l'heure que l'accroissement des contributions de chacun. Reconnaissons-le, cette crise a pu éveiller chez certains quelques doutes par rapport aux espoirs que mon élection a fait naître. Eh bien non, ces espoirs, je les porte, ils ne seront pas déçus. De la crise, il faut tirer les leçons. La première, c'est qu'il n'est plus possible de gouverner aujourd'hui comme on l'a fait au cours des 20 dernières années. Esquiver les vrais problèmes, poser des pansements sur des blessures qu'on ne soigne jamais, remettre à demain ce qu'il faut faire sans délai. Eh bien, nous étions au bout de ce système.
Voilà, Jacques Chirac, le 31 décembre 1995.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Il y a la réforme des retraites qui les inquiète, mais pour les personnels soignants, le mal ou le malaise est bien plus profond, ce qu'on savait déjà. Ce que vient confirmer le dernier baromètre Carnet de Santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, pour France Info et Le Figaro. Un millier d'infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes et cadres de santé ont été interrogés. Résultat, pour la quasi-totalité d'entre eux, l'hôpital va mal et la situation ne devrait pas s'arranger en 2020. Bonjour Thierry Amouroux.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. Plus de la moitié des infirmiers et aides-soignants se disent incapables d'exercer correctement leur mission. C'est énorme.
Oui, mais il faut bien comprendre que ça fait 10 ans qu'on coupe les vivres de l'hôpital année après année. Donc voilà, on a fermé en 20 ans 100 000 lits. On a fermé en 20 ans 95 services d'urgence, on a fermé en 20 ans la moitié des maternités. Donc, du coup, on arrive à ces situations où on met les patients en danger. Ceux qui ont des problèmes cardiaques ou d'AVC, accident vasculaire cérébral, ben chaque minute compte, et lorsque le service d'urgence est éloigné de 50 à 60 kilomètres, eh bien, ça a des conséquences. Vous avez une étude qui a été sortie par les hôpitaux anglais qui ont analysé 4 millions de passages et qui ont montré que 5500 patients anglais sont morts d'avoir attendu parfois près de 11 heures un lit aux urgences anglaises. Nous, on est bien au-delà des 11 heures. Le record, on l'a atteint en juillet, où un patient de 72 ans du CHU de Saint-Étienne a attendu 5 jours sur un brancard aux urgences. Donc effectivement, nous soignants, on est très inquiets de ce qui se passe. On est confronté à une situation dégradée qui entraîne des conflits éthiques chez les soignants.
Alors justement,
qui sont amenés par la force des choses à privilégier la prise en charge de tel ou tel patient, faute de pouvoir répondre de façon optimale à tous.
Voilà, justement,
c'est inacceptable pour nous.
Vous parlez de conflits éthiques, il n'y a pas qu'un problème de moyens et d'effectifs, c'est votre rôle qui n'est pas reconnu à sa juste mesure.
Oui, il y a aussi un problème de reconnaissance, y compris salariale, parce que effectivement, les infirmières françaises sont les plus mal payées d'Europe. Il y a une étude de l'OCDE qui a montré que, en termes de salaire moyen infirmier, on est en dessous du salaire moyen français, alors qu'on est à un niveau bac plus 3.
Et le geste,
au niveau international, le geste récent, la France est 26e sur 29.
Le geste récent du gouvernement dans le cadre de son plan pour l'hôpital est insuffisant?
Ah oui, parce que il y a eu des effets de communication, mais la réalité, c'est que le taux de dépenses consacré à l'hôpital est de moitié inférieur aux besoins de l'hôpital. Ça veut dire que cette année 2020, on va encore retirer 5 à 600 millions d'euros au budget des hôpitaux et supprimer, donc ça veut dire supprimer des postes, ça veut dire supprimer des lits, donc augmenter encore les problèmes que l'on voit aujourd'hui aux urgences. Et nous, les grandes mobilisations qu'on a à l'hôpital, c'est pour réclamer des lits supplémentaires, pour réclamer des effectifs supplémentaires et une revalorisation salariale par rapport à ce qui est constaté au niveau européen.
Alors à tout cela s'ajoute, Thierry Amouroux, la réforme des retraites. Hein, deux tiers des personnels hospitaliers dans cette enquête pensent être défavorisés par cette réforme. Pourtant, il y a là aussi un geste est annoncé sur l'extension de la pénibilité à la fonction publique, par exemple l'élargissement des heures de nuit.
Alors là encore, on est dans l'art de la fake news. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a une mesure qui concerne les aides-soignantes et les infirmières de catégorie B à l'hôpital, qui est la catégorie active, c'est-à-dire le droit de partir 5 ans plus tôt, à avec une retraite proportionnelle au nombre d'années travaillées. C'est pas une retraite complète. Et là, ça va être supprimé et ça va être remplacé par le droit de rentrer dans l'usine à gaz de compte de prévention de la pénibilité qui au maximum peut accorder 2 années de droit de partir plus tôt. Donc là, on avait 5 ans, il n'y aura plus que 2 années. Donc vous voyez pourquoi, là encore, l'hôpital est mobilisé contre cette réforme alors que la pénibilité est objectivée à l'hôpital. Vous avez, selon la caisse de retraite CNRACL, 20% des infirmières et 30% des aides-soignantes qui partent en retraite avec un taux d'invalidité. Et la durée de vie d'une infirmière est de 7 ans inférieure à celle d'une femme française, c'est-à-dire 78 ans au lieu de 85 ans. Donc vous voyez qu'on a des raisons de ne pas être content.
Pour terminer, Thierry Amourou, 9 soignants sur 10 estiment que tout cela ne va pas s'arranger en 2020. Alors comment fait-on là? Comment on repart dans ces conditions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les rassurer complètement?
Il faut déjà arrêter de nous supprimer des moyens, parce que là, non seulement on n'en rajoute pas, mais on en supprime. C'est ça qui est terrible. Donc on sait qu'effectivement, que l'année prochaine sera pire, parce qu'on aura encore moins d'argent pour fonctionner, alors que déjà, le point de rupture est atteint. Vous vous rendez compte que sur l'Île-de-France, alors qu'on n'est pas encore en épidémie de grippe ou en épidémie de bronchiolite, nous avons été amenés à envoyer 26 enfants en province, à Rouen, Amiens, Caen ou Reims, parce qu'il n'y avait plus assez de lits de réanimation pédiatrique en Île-de-France. Donc c'est la folie partout. À Nice, c'est pareil, ils envoient des gens sur Marseille. Voilà, dans tout le pays, on a un problème de lits. Il n'y a plus assez de lits pour faire face aux besoins de santé de la population.
Donc rajouter encore des moyens.
Oui, et surtout pour arrêter d'en supprimer.
Merci beaucoup Thierry Amourou, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers. Merci. Il n'y a pas qu'en France, puisqu'on parlait de grève. Une grève de 3 jours commence aujourd'hui en Allemagne à Germanwings, filiale low-cost de la Lufthansa. 180 vols devraient être annulés ces jours-ci. Grève qui porte sur la réglementation du temps partiel. Grève jugée inappropriée, bien sûr, par la direction. Et puis une nouvelle opération de secours la nuit dernière pour 19 migrants dans la Manche, au large de Dunkerque, qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne sur un petit bateau de plaisance. Certains d'entre eux étaient en hypothermie, ils ont été ramenés sur le littoral français peu après minuit. À l'étranger également, l'Irak serait-elle devenue le nouveau terrain de guerre entre les États-Unis et l'Iran? Après plusieurs attaques qui visaient des bases américaines, Washington a répliqué en visant le Hezbollah, mouvement pro-iranien, dont au moins 25 combattants auraient été tués. Des frappes qui, selon Téhéran, ce matin, démontrent le soutien des États-Unis au terrorisme, ces mêmes brigades du Hezbollah ayant lutté contre le groupe État islamique, précise l'Iran. Mais pour Washington, au contraire, ces milices pro-iraniennes installées en Irak sont une menace plus forte encore que les cellules clandestines de Daesh. Bref, Christian Chéneau, les deux pays sont encore montés d'un cran dans l'escalade.
Oui, faute de vouloir s'affronter directement, Américains et Iraniens se livrent à une guerre de harcèlement dans tout le Moyen-Orient et plus spécialement en Irak où sont stationnés 5200 GIs. Les milices pro-iraniennes comme les brigades du Hezbollah s'en prennent régulièrement aux intérêts de Washington. Depuis octobre dernier, 11 attaques ont ainsi été menées, y compris dans la zone verte, quartier ultra sécurisé de Bagdad, où est installée l'ambassade américaine. La méthode la plus courante utilisée par les alliés de Téhéran en Irak est une bordée de roquettes plus ou moins précises, avec à chaque fois un message clair. Plus Washington fera pression sur la République islamique, et plus cette dernière activera ses réseaux hors du territoire iranien pour porter des coups aux intérêts des États-Unis dans la région. Mais cette fois-ci, la mort d'un ressortissant américain dans une attaque contre une base à Kirkuk a déclenché les foudres de la Maison-Blanche, qui a donc répliqué militairement. Évidemment, cette escalade alimente encore un peu plus une tension déjà maximale entre Téhéran et Washington, et ce, à quelques jours de la 5e phase de désengagement de l'Iran de l'accord sur le nucléaire.
Christian Chéneau, on parlait des États-Unis, encore un drame de la vie quotidienne au Texas en l'occurrence, où un homme a ouvert le feu et tué 2 personnes pendant un service religieux retransmis en direct. Il a lui-même été tué par 2 paroissiens qui ont aussitôt riposté, paroissiens héroïques auxquels le gouverneur du Texas a apporté toute sa reconnaissance en rappelant disant que les lieux de culte étaient sacrés, ce qui n'empêche pas apparemment d'y venir armé. En Chine, il avait mis au monde les premiers bébés génétiquement modifiés. Le chercheur chinois He Jiankui écope de 3 ans de prison. En novembre 2018, il avait annoncé la naissance de jumelles à l'ADN modifié pour les rendre plus résistantes au virus du sida dont leur père était infecté. L'annonce avait fait mondialement scandale. La Chine, accusée de laxisme, avait finalement ordonné la suspension des recherches et arrêté le scientifique. Angélique Forget nous appelle de Shanghai.
C'était avec beaucoup de fierté que He Jiankui avait présenté fin 2018 ses travaux. Le généticien s'était même exprimé à la télévision, parlant d'une grande première et d'un exemple pour ce que l'on pourrait faire ensuite. Aujourd'hui, le tribunal de Shenzhen, dans le sud du pays, le reconnaît coupable de pratiques illégales et le condamne à 3 ans d'emprisonnement et près de 380 000 euros d'amende. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui a pu assister au procès, révèle que le tribunal lui reproche d'avoir cherché l'argent et la gloire, et d'avoir ainsi violé la loi en matière de recherche scientifique. Avec cette condamnation, les autorités chinoises espèrent prouver leur bonne foi. Pékin assure n'avoir jamais donné son accord aux scientifiques pour qu'ils mènent ces travaux. Officiellement, la Chine, comme la plupart des autres pays du monde, interdit formellement les manipulations génétiques sur l'homme. À l'époque, de nombreux scientifiques estimaient que cette annonce risquait de nuire à la réputation de la science chinoise. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
À peine paru au journal officiel, le décret du gouvernement sur les pesticides est déjà contesté. Le décret applicable au 1er janvier précise la distance légale qui devra séparer les zones d'épandage des zones d'habitation. 5 mètres pour les cultures basses, au moins 20 mètres pour les plus hautes et pour les pesticides les plus dangereux. Très insuffisant pour l'association Agir pour l'environnement qui annonce son intention d'attaquer l'État en justice pour faire annuler ce décret. Un décret de son point de vue nul et non avenu. Stéphane Kerkov, son délégué général au téléphone de Célia Kiré.
Le décret et l'arrêté, en fait, ont déjà été attaqués et déjà cassés par le Conseil d'État, il y a quelques mois de ça, parce que justement, les périmètres n'étaient pas suffisamment importants pour protéger les riverains liés à l'exposition aux pesticides. Donc, une nouvelle fois, le gouvernement n'a pas voulu vraiment protéger les riverains, donc on va à nouveau saisir le Conseil d'État pour faire casser cet arrêté. Vraisemblablement, le Conseil d'État va émettre à peu près la même position. C'est regrettable parce qu'on perd encore du temps, c'est regrettable parce que une fois encore, le gouvernement donne des gages au lobby des pesticides, sans avoir réellement la volonté de réduire l'exposition aux pesticides et surtout sortir l'agriculture française de cette dépendance aux produits toxiques.
C'était la grande nouveauté de l'année dernière, la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. La révolution se poursuit en 2020 avec l'entrée dans le dispositif, cette fois, des salariés à domicile. Eux aussi, désormais, bien qu'ils soient employés par des particuliers, seront prélevés de ce qu'ils doivent au fisc directement sur leur salaire, s'ils sont imposables, bien entendu. Et c'est l'URSSAF qui s'occupera de tout, Manuel Ruffez.
Le particulier employeur déclare, comme d'habitude, le salaire de son employé sur les sites Page Emploi ou CESU. Et c'est ensuite l'URSSAF qui s'occupe de tout en lien avec le fisc. Pas besoin notamment de mettre le nez dans le taux d'imposition du salarié. Marie-Béatrice Levaux, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France.
Ça permet à tous les particuliers employeurs d'avoir un système simple dans lequel, je dirais, ils n'ont rien à faire parce que finalement, il n'aura pas à gérer directement le prélèvement à la source de son salarié. Et cela, c'est normal parce qu'il n'a pas de service comptable ou de service du personnel dans sa cuisine.
Pas de stress, pas de complexité supplémentaire et mieux encore, en adhérant au service plus.
Il n'aura même plus à déposer un chèque sur la table de la cuisine puisque le salaire de son salarié va être prélevé sur le compte bancaire de l'employeur. Et ce salaire net va être transféré par CESU ou PAGE sur le compte bancaire de votre salarié. Et si votre salarié paye l'impôt, eh bien c'est CESU et PAGE qui transféreront ce qui est dû aux services fiscaux.
25% des 1,5 million de salariés à domicile sont concernés par le prélèvement à la source de leurs impôts.
Voilà, un prélèvement à la source qui devrait concerner 3 millions de particuliers employant 1,5 million de personnes à domicile. Avant de penser aux impôts, d'abord la fête, le nouvel an, ce n'est pas comme Noël, pas une fête familiale en général. Les jeunes sont avec les jeunes et les parents entre eux. Certains parents étant même priés d'aller voir ailleurs et de laisser la maison. Oui, oui, ça sent le vécu. C'est le cas chez Mathéo, 17 ans, en terminale sur l'île de Ré. C'est lui qui recevra demain soir les copains à la maison, ce qui demande bien sûr un peu de préparation, Valentin Boisset.
À quelques heures de l'arrivée de sa vingtaine d'amis, le stress monte pour Mathéo.
Faut voir si ça va être cool. Les soirées de nouvel an n'ont pas toujours très bonne réputation. Les gens sont, on sort du réveillon, les gens sont peut-être fatigués, mais c'est pas, on dit que c'est pas là où il y a les meilleures ambiances.
Avec sa mère, il règle les derniers préparatifs et prend quelques précautions.
Il y a une télé. Une petite télé. Non, c'est plutôt l'électroménager, je vais faire attention. Je vais surtout enlever les trucs fragiles, arranger un espace pour pouvoir danser.
Mathéo a installé des lumières et des enceintes. Il va maintenant falloir acheter de l'alcool.
Il faut du champagne quand même. On va faire des cocktails, du vin pour aller avec le repas, du cidre, de la bière.
Alors la maman Stéphanie a fixé quelques règles.
Ce que j'ai dit à Mathéo, c'est que je voulais que le lendemain, ça soit rangé et ça soit propre.
Bon, on mettra tout en état, de toute façon.
D'expérience avec mes aînés, je sais que parfois l'alcool fait que on se contrôle plus aussi bien. Fait quelques mises en garde.
La soirée devrait donc bien se passer et que la maman se rassure, la grande sœur Daphné passera elle le nouvel an à quelques dizaines de mètres dans une autre maison.
Je serai plutôt assez sobre, donc s'il y a besoin de conduire quelqu'un quelque part, ou j'espère que j'aurai pas à surveiller. Hein. Mais après, pour tout ce qui est du ménage, etc., je ne nettoierai rien.
C'est donc par un coup de serpillière que Mathéo commencera l'année 2020.
Voilà, à vérifier quand même, mercredi matin. Voulait-il préparer le réveillon ce week-end? En tout cas, pour eux, c'est raté. Les deux hommes armés qui ont fait irruption dans le McDo de Mézieux, en banlieue lyonnaise, avaient tous des pieds nickelés, en beaucoup moins drôle. La scène filmée par un client a fait le tour des réseaux sociaux, Camille Descroix.
Il est 22h vendredi dernier, quand deux hommes cagoulés et vêtus de noir entrent dans l'établissement de Mézieux. L'un des deux malfrats braque alors une arme de poing sur l'un des employés. Ouvre la caisse, entend-on scander à plusieurs reprises dans cette vidéo moquée par les internautes sur les réseaux sociaux. C'est un mélange de confusion et d'amateurisme. L'un des braqueurs apostrophe même son complice par son prénom et semble avoir des difficultés à ouvrir la caisse. À quelques mètres de là, des clients médusés et sidérés assistent à la scène. D'autres, en revanche, apparaissent plus détachés et continuent leur repas. Une séquence également violente, puisqu'on y voit le braqueur armé donner deux coups de pied à un homme derrière le comptoir. Une enquête de police a été ouverte. La communication de McDonald's affirme avoir mis en place une cellule de soutien pour les salariés présents lors du braquage et salue leur sang-froid.
Camille Descroix. Un mot de sport pour terminer avec outre-Manche, le phénomène Liverpool. En tête de la Première Ligue et de loin, les Reds de Liverpool sont invaincus depuis début janvier, encore vainqueurs hier. Il leur reste à battre Sheffield jeudi soir et ils auront réussi l'incroyable Amaya Cazenave, une année sans défaite. Le record d'Arsenal est en ligne de mire.
La victoire d'hier n'a pas été la plus aboutie ni la plus spectaculaire, mais qu'importe, elle permet aux Reds de continuer de surfer sur la vague du succès. La série est impressionnante. Les hommes de Jurgen Klopp n'ont plus perdu en championnat depuis le 3 janvier 2019 et un revers face à Manchester City. 2-1, une défaite qui leur a d'ailleurs coûté le titre l'an passé. Depuis, le rapport de force est inversé. Ils ont remporté la finale de la Ligue des Champions face à Tottenham et la finale du Mondial des Clubs. Mais ils ne semblent pas rassasiés. Avec 13 points d'avance et un match en retard à jouer, Liverpool semble mieux placé que jamais pour s'emparer du titre de champion d'Angleterre qui lui échappe depuis 30 ans. Et puis le club court après un record, celui d'Arsenal. Entre 2003 et 2004, l'équipe d'Arsène Wenger et de Thierry Henry a enchaîné 49 matchs sans défaite. Les Reds en sont à 35 et c'est déjà inédit dans l'histoire du club.
Voilà, Amaya Cazenave, Liverpool qui est en tête avec 13 points d'avance sur Leicester, 14 sur Manchester City. Le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac.
Le soleil s'impose sur la plupart des régions. Malgré tout, les nuages bas peuvent faire de la résistance. C'est le cas sur les côtes sud de la Bretagne, de la Vendée à la Charente. Quelques nuages aussi vers la Garonne. La grisaille est tenace sur l'Alsace, vers le Val-de-Saône et le Lyonnais également. Du Roussillon vers le Languedoc, là c'est mitigé. Les nuages se morcellent doucement, des éclaircies se dessinent. Les températures sont en hausse. On est deux saisons ou un peu au-dessus, sauf sous la grisaille. Pas plus de 2 degrés à Strasbourg ou à Dijon, 7 degrés à Lille, Angers, Lyon, 8 à Paris, Deauville, Brest et Bourges, 11 degrés à Bordeaux, 12 à Toulouse et Montpellier, 15 à Nice, 18 degrés à Tarbes. Demain, peu de changements pour les températures. Il faudra encore composer avec les nuages bas et les brouillards, parfois givrants, très nombreux et durables vers le Val-de-Saône, en vallée du Rhône, sur l'extrême nord, mais aussi sur les régions de l'ouest. Une perturbation apportera d'ailleurs quelques gouttes sur le Finistère le matin, puis sur les régions proches de l'océan l'après-midi.